Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova.
Comment imaginez-vous ce qui nous reste à vivre du 21e siècle? Quel livre vous a un jour mis sur la voie de ce futur immédiat? S'agit-il forcément de Lendemain de cendres? Qu'est-ce que ces visions ont provoqué chez vous, sur votre écriture, voire peut-être sur votre dernier ouvrage en date? Bref, est-ce qu'on est tous foutus ou reste-t-il quand même aller un chouïa d'espoir face à l'effondrement général? C'est la question que j'ai posée fin septembre au fil de la 21e édition des Correspondances de Manosque. Planqué que j'étais dans l'arrière-boutique d'une ancienne librairie, question que j'ai posée à une dizaine d'écrivains qui ont accepté d'en venir à demain sans jamais jouer, ou presque, les prophètes d'Apocalypse. Dans ce premier volet de cette série de conversations divinatoires en deux épisodes d'une heure, quatre auteurs se succéderont devant notre micro boule de cristal. À commencer par Cécile Coulon, l'autrice clermontoise d'Une bête au paradis, parue aux éditions L'Iconoclaste. Cécile Coulon voit dans la survie acharnée de deux jeunes frères piégés dans un trou de 7 mètres, héros malheureux du puits de l'Espagnol Ivan Repila, l'allégorie de notre indispensable sursaut. Vous entendrez ensuite Alban Lefranc qui, afin de muscler la catastrophe qui menace dans son roman « L'homme qui brûle » paru aux éditions Rivage, s'est frotté à la pensée ainsi qu'au sens de l'exagération du philosophe allemand Gunther Anders via son essai « L'obsolescence de l'homme ». Fidèle au titre de son roman « Jour de courage » paru aux éditions Flammarion, Brigitte Giraud préfère nous prévenir qu'il y aura bagarre entre les habitants des villes et ceux, de plus en plus nombreux, des forêts qu'elle aperçoit pour notre futur de plus en plus souterraines. Elle convoquera aussi l'image des tuberculeux en sursis de la montagne magique de Thomas Mann, attendant que la vie se prolonge pour chacun d'entre eux. Enfin, Laure Limongi, loin de la Corse, à la fois trouble et solaire de son roman « On ne peut pas tenir la mer entre ses mains », disponible aux éditions Grasset, Laure tentera de saisir la taïga irradiée du roman « Terminus radieux » d'Antoine Volodine, ou encore d'écouter les témoins de la fin de l'homme rouge interrogé par la journaliste biélorusse Svetlana Alexievitch. Pour le dire en deux mots, nos futurs, enfin je veux dire NOSFUTURS, nos futurs, il y en a plein qui s'ouvrent à nous. Bonjour, c'est Richard Guettet, bienvenue dans la Nova Bookbox, le jukebox littéraire de Radio Nova, que vous retrouvez chaque dimanche de 12h à 13h, tel un oasis de sagesse dans votre brunch. J'astique ma boule de cristal et je me téléporte avec elle dans le passé, enfin pas trop loin, il y a deux semaines en Provence, aux Correspondances de Manosque. Pour parler du futur, vous l'avez bien compris, je crois, avec ma première invitée, Cécile Coulon. Installée à Clermont-Ferrand, cette poète et romancière vient à 29 ans de publier son 7e roman, Une bête au paradis, récompensé du prix littéraire du journal Le Monde. Une tragédie rurale et familiale dans laquelle on peut lire ceci. Aurore comprenait qu'elle ne soignerait pas Gabriel, qu'il y avait en lui un arbre noir. Depuis l'enfance, que la mort de ses parents avait arrosé de colère. Elle ne pouvait pas le tomber, cet arbre, seulement couper quelques branches quand elle devenait trop encombrante. Elle le rafraîchissait, le frictionnait de ses mots et de son sourire. Elle le secouait pour que tombent de son âme des feuilles mortes et des fruits empoisonnés. Fin de citation. Mais si on se secoue le cerveau pour savoir de quoi demain sera fait, à quoi ressemblent les fruits qui tombent? Sont-ils radioactifs? Réponse de Cécile Coulon.
Quand je pense à ce qu'il nous reste à vivre du 21e siècle, eh ben, ça fait déjà un sacré paquet d'années, mine de rien. Alors, du point de vue de l'âge de la Terre et des galaxies du système solaire, c'est rien du tout, c'est un grain de sable. Mais du point de vue de l'âge de ma grand-mère, c'est quand même toute sa vie, donc c'est pas mal. Je suis pas inquiète du tout. D'une part, parce que je me dis que si tout fout vraiment le camp et si on doit mourir dans 50 ans, bah, je me dis qu'il me reste 50 ans et que pour faire absolument ce que je veux, puisque quand tout s'effondre, on n'a plus rien à perdre. Et je crois que ce n'est pas une pensée réjouissante, mais c'est une pensée de laquelle peut surgir des formes de révolution incroyables, des formes d'écriture aussi incroyables. Et je pense que c'est le moment où l'imagination explose, parce que quand vous dites à votre tête que tout va bientôt finir, votre tête fait la gueule pendant une heure ou deux, et puis après elle se dit « qu'est-ce que je vais faire de ce qui me reste ?» Donc je ne suis pas inquiète, je suis assez excitée. Et à l'inverse, si on me disait « en fait, rien ne va bouger, et il y en a encore pour des milliers, voire des millions d'années », je pense que j'aurais tendance à penser « c'est un peu long ». Quand je pense à ce futur proche, me viennent des images d'un livre qui a été publié il y a quelques années, qui s'appelle « Le Puits » d'Ivan Repila. Ce livre a été pour moi un bouleversement assez intense. Je suis assez émue en parlant, en fait, je me rends compte là. Parce que quand je l'ai lu, je me souviens très bien où je l'ai lu dans une gare. J'attendais mon train, je repartais de Normandie pour retourner à Clermont-Ferrand. Je vous laisse imaginer la durée du trajet. Et je lisais ce livre qu'on m'avait fortement conseillé. Je l'ai lu dans la gare, ça fait, je sais pas, une centaine de pages. J'ai été bouleversée, j'ai été émue à un point assez rare dans l'histoire de mes lectures et d'émotions concernant mes lectures. Et Le Puits, c'est l'histoire de deux enfants, le grand et le petit, qui sont jetés dans un puits au milieu d'une forêt. C'est un puits qui fait 7 mètres de fond. Autour de cette forêt, il y a des montagnes et un lac. On pense que c'est la mère qui les a mis là, soit pour les protéger, soit pour les abandonner, soit les deux. Et le grand veut absolument sauver le petit de la mort qui les attend dans ce puits. Toute l'histoire se passe dans ces 7 mètres, au fond de ces 7 mètres de profondeur. On suit les pensées du grand, on suit sa certitude que la fin est en train d'arriver, la fin sous toutes ses formes, et aussi tout ce qui est en son pouvoir pour sauver son petit frère qui lui se laisse mourir dans un coin, couché en chien de fusil. Et quand je pense à mon futur proche ou à notre futur proche, je pense à ce livre parce qu'il me semble que c'est l'image absolument parfaite de toutes les idées et les paroles très sombres qu'on entend. Voilà, on vous a poussé depuis le début du XXIe siècle au fond d'un puits. Vous allez rester tout au fond et vous allez finir par mourir de sécheresse, d'absence de nourriture, d'absence de considération ou autre. Or, dans ce livre, malgré la tentation de croire que c'est une histoire terrible, ne réside que de l'espoir. Et en le lisant, je me suis dit, mais comment peut-on faire naître autant d'espoir et de lumière d'un texte aussi sombre, étrange et voué à la fin, et voué à la mort ? Donc, si dans les gens qui nous écoutent, il y en a qui ont peur de ne jamais sortir des 7 mètres de profondeur où ils pensent être, lisez Le Puits d'Ivan Repila. Les visions métaphoriques de ce futur proche impactent mon travail, on va dire d'une manière assez immédiate, à savoir de se dire, quand on commence un chapitre, quand on commence une histoire, quand on commence une nouvelle, n'importe, de se dire c'est probablement la dernière. Et si ce doit être le dernier livre, comment on fait ? Comment on fait si c'est le dernier pour, d'une part, accepter que ce soit le dernier, une fois que c'est accepté et acceptable ? Est-ce que c'est acceptable ? Qu'est-ce qu'on y met là-dedans ? Qu'est-ce qu'on y met de soi ? Qu'est-ce qu'on y met de son imagination ? Est-ce que c'est comme en cuisine, on réserve une part de soi, on le met de côté, on fait des réserves, des refuges à histoire ? Et si tout doit finir et si tous les livres doivent disparaître et si la Terre disparaît, est-ce qu'il y aura de la vie sur une autre Terre et est-ce que sur cette autre Terre, on se transmettra les histoires écrites aujourd'hui par la voix, je l'espère, ou par toute autre façon de faire ? Mais en tout cas, L'impact est... Je pense pas qu'il soit terrible. Au contraire, je pense que, encore une fois, ça peut paraître absolument horrible de dire ça, mais je pense que cet impact, même s'il est mortifère, il est aussi jouissif, parce qu'il y a cette sensation de se dire, puisque tout est sur le point d'être détruit, tout est possible. Il me semble que dans la destruction, il y a le berceau, le fondement d'un espoir à venir. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste. Donc je pense comme ça. Après, il y a plein de gens qui vous diront l'inverse, hein, qui vous diront c'est fini, il se passe rien après. Mais quand il s'agit d'écriture, de toujours imaginer que le livre sera le dernier, je pense que c'est une belle manière de l'étoffer et de le rendre plus intelligent que les précédents. J'ai écrit un texte qui s'appelle « Le rire du grand blessé », où il était question de lecture et de livres. Et dans ce texte, les livres n'étaient pas brûlés, n'étaient pas interdits. Au contraire, les livres envahissaient la vie sociale, sauf que c'était toujours le même. Les livres n'avaient plus de nom d'auteur, ni de titre, ni de maison d'édition, mais ils avaient tous un numéro avec la sensation qu'ils sont censés promettre, c'est-à-dire des livres frissons, des livres rires, des livres terreurs, des livres amour. Et les gens les lisent et les écoutent lire à haute voix dans des stades pour ressentir l'émotion qu'on leur propose. Je crois que j'avais imaginé un monde où le livre serait une machine de destruction intérieure massive. Alors ça peut paraître un peu bizarre de faire ça quand on est soi-même autrice, mais je crois que parfois je m'inquiète un peu, et encore une fois c'est très bizarre de dire ça, de l'uniformité de l'écriture et l'uniformité de la... même de la pensée. Enfin, je veux dire, on est aujourd'hui dans un moment où la bien-pensance et ce qu'on a le droit de dire, le droit de dessiner, le droit d'imaginer est quand même soumis à des règles de liesse populaire et de jugement populaire incroyablement difficiles et raides. Et je me suis dit, qu'est-ce qui se passe si un jour on est dans un monde où en fait on fera plus un livre, on fera plus un temps de solitude, mais on fera un livre terreur. Et puis ça fera peur à des milliers de personnes, et puis après ils prendront un autre livre, et en fait tout ça aura été tout à fait calibré, tout ça aura été pensé, préparé. Que faire d'un monde culturel et littéraire sans surprise ? Est-ce que ça existe ou pas ? C'était ça l'idée de ce livre. Si je devais choisir une musique qui serait la bande-son de ce futur immédiat, malheureusement je n'ai que le titre de la chanson, j'ai pas le groupe. C'est une chanson des années 60. Le titre c'est « In the year 2525 ». Et c'était un groupe qui imaginait, enfin dans les paroles, c'était imaginer tous les... en 2020, ensuite en 3020, en 4020, à quoi ressemblerait le monde. Cette chanson est incroyable. Et il y a un moment dans la chanson où ça s'arrête et où c'est Dieu qui se dit, après avoir vu ce que ça a fait, on va dire, sa création, qui se dit peut-être qu'il faut que maintenant ça s'arrête vraiment. In the year 2525, if man is still alive, if woman can survive, they may find. In the year 3535, ain't gonna need to tell the truth, tell no lies. Everything you think, do, and say is in the pill you took today. In the year 4545, ain't gonna need your teeth, won't need your eyes. You won't find a thing to chew. Nobody's gonna look at you. In the year 5555, your arms are hanging limp at your sides. Your legs got nothing to do. Some machine doing that for you. In the year 6565, ain't gonna need no husband, won't need no wife. You pick your son, pick your daughter too, from the bottom of a long glass tube. Whoa, whoa. In the year
it's time for the judgment day. In the year 8510, God is gonna shake his mighty head. He'll either say I'm pleased where man has been, or tear it down and start again. Oh, oh, oh. In the year 9595, I'm kinda wondering if man is gonna be alive. He's taken everything this old earth can give, and he ain't put back nothing. Whoa, whoa. Now it's been 10,000 years. Man has cried a billion tears for what he never knew. Now man's reign is through, but through eternal night, the twinkling of starlight, so very far away, maybe it's only yesterday. In the year 2525, if man is still alive,
Nova Book Box, le jukebox littéraire de Radio Nova.
In the year 2525, cette chanson pop du duo américain Zager & Evans, qui se termine en prédisant l'extinction de l'humanité aux alentours de l'an 9595, on a un peu le temps. A noter que ce titre était en tête des charts lorsque Neil Armstrong posa le pied sur la Lune le 20 juillet 1969. Deuxième devin consulté sur nos futurs cataclysmiques ou préoccupés, l'écrivain Alban Lefranc, rencontré comme tous les intervenants de cette émission lors de la 21e édition des correspondances de Manosque en Provence. Auteur de biographies sur des personnalités aussi variées que Piala, Mohamed Ali, Nico ou Fassbinder, voire sur Steve Jobs, à propos duquel il écrivit une pièce de théâtre adaptée sur scène par Robert Cantarella avec Nicolas Maury dans le rôle de l'ingénieur à la pomme, Alban Lefranc, 44 ans, vient de publier « L'homme qui brûle » aux éditions Rivage, roman où surgit le spectre du désastre de tous les désastres. À venir, selon ses pronostics, d'ici 2 ou 3 piges, en abordant en chemin nos angoisses actuelles, politiques et climatiques. Nous ne vivons plus dans une époque, mais dans un délai, dit son anti-héros solitaire, Luc Jardy. Cher Alban, vous disposez d'environ 11 minutes pour essayer de nous rassurer sur le monde qui vient.
Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué en matière de description du présent et d'anticipation possible du futur. C'est un livre de Günther Anders qui s'appelle « L'obsolescence de l'homme » sur l'âme à l'époque de la deuxième révolution industrielle. Et c'est un livre de 1956. Moi, c'est un livre que j'ai beaucoup lu, pratiqué quand j'écrivais mon roman « L'homme qui brûle ». Parce que chez Anders, il y a vraiment un désir très, très clair d'exagération aussi, d'amplification. Donc il pousse le curseur assez loin. Il a un vrai sens de la formule aussi. C'est un pamphlétaire par certains aspects. Et ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé pour l'écriture de mon bouquin, parce que c'est quelque chose que je cherchais aussi à faire, c'est-à-dire à vraiment pousser les signes assez loin, pousser le curseur assez loin. Alors, je repensais à cet petit exercice-là que vous nous proposez. Et au dernier moment, je me suis aperçu qu'on ne pouvait pas proposer un film, parce que sinon j'aurais proposé Brésil, qui me paraît très, très juste, dans un mélange comme ça, à la fois de régime extrêmement violent, totalitaire, et en même temps complètement grotesque, farcesque, quoi. On voit des processions de consommateurs unis pour Noël, ou des choses comme ça. Ce mélange à la fois d'extrême violence et de grotesque, d'extrême violence et d'un régime ou de régime politique qui emploie un ton très lénifiant, oui, ça me paraît vraiment une caractéristique de notre époque, quoi. Donc il y a à la fois, parmi les livres que j'aurais pu citer, il y a évidemment 1984 d'Orwell.
This is a story about the future. Not the distant future of spaceships and men from other planets, but the immediate future. This is a story about tomorrow.
Le régime de Big Brother proclame la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force. Donc une espèce d'inversion comme ça, de destruction du langage. Bon, ça, on y assiste beaucoup aujourd'hui, ne serait-ce que dans notre joli pays. Quelque chose qu'on n'avait pas anticipé Orwell, c'est le côté doucereux, lénifiant, les hashtags, tous unis contre le terrorisme, ou non au racisme. Enfin, une espèce de langage très désarticulé. L'impression aussi de la part des différents types de discours publics qui parfois sont menés. L'impression aussi qu'on parle à des enfants d'un an pas très éveillés. Et encore, je ne suis même pas sûr que des parents parlent à leurs enfants comme ça. Il y avait un slogan dans la RATP qui m'avait beaucoup frappé, mais on pourrait en citer des milliers, c'était « Dans le bus, je valibus ». C'est-à-dire que ce n'est pas valider votre ticket, veuillez valider votre ticket, soit un impératif, soit une forme infinitive. C'est vraiment... oui, on a l'impression qu'il... C'est très curieux, j'aimerais beaucoup trouver les traces de la réunion de l'agence de com qui a produit ce slogan débile, débilitant surtout. Vraiment l'impression qu'on parle à des enfants d'un an, mais en fait, je ne pense même pas que des parents parlent à leurs enfants comme ça. Donc ça, c'est un moment très très singulier, à la fois d'une réelle... montée de violence dans le maintien de l'ordre et parallèlement à ça, ce qu'on n'avait pas vu par exemple Orwell, un discours voilà, très, très, très lénifiant, très infantilisant, très débilitant. On peut imaginer que effectivement, ce sont des choses qui peuvent aller s'amplifiant. En tout cas, ce sont des signes qu'on peut repérer. Moi, après, toute prédiction sur l'avenir me paraît toujours un peu hasardeuse. On se contente comme ça de repérer des signes. Ce qui est intéressant dans le livre de Anders, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'il est très attentif à notre devenir fantomatique, aux fantômes dans notre univers. Et lui, il constate ça pour la radio et la télévision à l'époque. Formule très, très frappante, il dit quand le lointain devient proche, c'est le proche qui devient lointain. Donc quand le monde vient sur nos écrans, quand des informations très lointaines du monde viennent nous toucher directement au plus intime de notre foyer, qu'il appelle d'ailleurs container, il dit c'est juste un container à informations, quand ce processus de rapprochement du lointain a lieu, c'est notre monde proche, notre monde sensible immédiat qui se dissout, d'après lui, qui devient lointain. Donc il est très attentif à ces phénomènes-là, et ce qui est passionnant, c'est que lui décrit ce qu'il a sous les yeux. Alors c'est un homme de l'ancien monde, c'est un intellectuel allemand, un intellectuel juif qui s'est installé en Californie dans les années 40, et c'est un véritable choc pour lui. Donc il est confronté très très brutalement à cette culture américaine qu'il ne soupçonnait pas, qu'il ne connaissait pas, et contre laquelle il va exercer une critique comme ça très ravageuse, quoi. Mais ce qui est amusant, c'est de ce qu'il dit de la radio, de la télévision. Bon, bah, a pris des proportions absolument folles si on pense simplement évidemment aux écrans ou des choses comme ça. Et j'avais publié une pièce, j'avais travaillé sur Steve Jobs, le fondateur d'Apple, et j'avais été très attentif à ces aspects-là. Autre chose aussi que dit de manière très passionnante Anders, c'est que l'homme a honte devant la machine. Il voudrait être aussi viable, aussi beau, aussi dépourvu de corps que la machine. Et ce qu'il repère de manière très subtile chez les Californiens, donc qui entre-temps ont quand même triomphé, hein, puisqu'on vit sous régime californien, ce qu'il repère, c'est aussi un puritanisme ahurissant de dénégation du corps. Donc vraiment, il a une attention comme ça à des une façon de repérer certains signes de notre modernité ou de notre présent que j'avais trouvé assez, assez fascinant.
This is not like TV only better. This is life. It's a piece of somebody's life. It's pure and uncut. It's straight from the cerebral cortex. I mean, you're there, you're doing it, you're seeing it, you're hearing it, you're feeling it.
Eh bien, du coup, quand je rédigeais mon livre, il se trouve que c'était un des livres que je lisais, qui me frappait beaucoup. Moi, ce que j'en ai retenu, c'est un goût de l'amplification, de l'exagération. Enfin, je ne tire pas ça que d'Anders, bien sûr, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup, beaucoup frappé. Dans ce monde... devenu complètement machinique et fantomatique, il a aussi vraiment le pari de faire confiance dans les pouvoirs de l'imagination. Donc c'est quelque chose aussi que j'essayais de déployer. C'est-à-dire, moi, encore une fois, comme je disais tout à l'heure, il y avait l'idée d'amplifier certains signes, de pousser le curseur très loin. J'imagine, par exemple, un pari à la fois à feu et à sang, où des attentats ont lieu constamment, sous un régime quasiment météorologique. Hein. Il fait beau, il pleut, il fait attentat. Hein. dans cet univers-là, y a une parole publique vue de loin par mes personnages qui n'en tiennent pas trop compte et qui est souvent décomposée en hashtags, décomposée en lambeaux de mots. Mais par exemple, mon personnage lit comme ça, un petit peu par hasard, sur au comptoir d'un café, un article du Monde qui explique qu'il y a une proposition de loi visant à interdire le centre de Paris, les quatre premiers arrondissements de Paris, aux femmes de plus de 36 ans, pour maintenir vraiment le dynamisme du tourisme, pouvoir acheter un nouveau porte-avions et célébrer la jeunesse éternelle de la femme française. Donc il y a vraiment une volonté de grotesque, d'exagération, mais qui est une façon juste de faire un pas de côté ou de bégayer par rapport à notre présent. S'il y a un morceau, en tout cas, auquel on peut penser pour accompagner la fin des temps, ce serait le The Cold Song de Purcell, interprété par Klaus Nomi. Bah, du coup, dans une vision extrêmement tragique de ce qui nous attend, parce que c'est un homme qui meurt de froid, tout simplement. On a l'impression qu'il est dans une des couches de l'enfer de Dante et que c'est aussi la perte de tout contact avec autrui aussi qui opère là. Une espèce de le grand froid de l'isolement, de la solitude.
L'effort
intellectuel,
C'est ça qui fait du bien.
C'est quand même une grande chance de pouvoir raconter des histoires. Moi, je le prends très au sérieux.
Poursuivons, chers auditeurs, chères auditrices, si vous le voulez bien, ces conversations semi-prophétiques, cette collection d'intuitions sur le 21e siècle, enregistrée lors de la 21e édition des Correspondances de Manosque. Après Cécile Coulon et Alban Lefranc, c'est au tour de Brigitte Giraud, 53 ans, de s'interroger en blouson de cuir sur nos futurs. Y brûlera-t-on les livres, comme dans Fahrenheit 451 de Ray Bradbury? Le mot « autodafé » fait gamberger Livio, le jeune lycéen, de son nouveau roman intitulé « Jour de courage » publié chez Flammarion en lice pour le prix Médicis. En classe, Livio a pour projet de faire un exposé sur les premiers autodafés nazis et s'attarde, en passant, sur Magnus Hirschfeld de 1868-1935, un médecin juif allemand, pionnier du combat pour les droits des homosexuels. Manière, pour l'autrice, d'évoquer en creux le consternant parfum d'intolérance qui parcourt de nouveau l'Europe. Nouvelle façon aussi d'évoquer les effondrements intimes qui rythment ces livres, quasiment depuis le premier, quasiment depuis la première phrase, en attendant déjà le prochain.
Quand je pense à ce qui reste du XXIe siècle, moi je vois quelque chose avec une forêt, ce qui est bizarre parce que, étrangement, la forêt est en train de brûler, la banquise serait en train de fondre, mais je vois de plus en plus de nature, parce que je ne peux pas imaginer que les villes et la surpopulation va englober la planète, et je vois exactement l'inverse, donc ça me paraît très étrange, mentalement, ça m'inquiète même de penser ça. Je pense qu'on n'est pas tous foutus, parce qu'on va tous se métamorphoser, en fait, se réincarner, je dis pas réincarner au sens de la réincarnation, mais on va tous muter et s'adapter, en fait. Je vois pas pourquoi on le ferait pas. Et ça me fait penser à cette chose, à savoir que la littérature est une éternelle réadaptation, une éternelle métamorphose. Moi, j'ai l'impression que je n'écris que pour cela, réussir des petites révolutions. Donc ça sera une grosse révolution. Ben moi j'imagine qu'il va y avoir une grande disproportion entre la vie dans les villes de plus en plus serrée, de plus en plus aride, de plus en plus minérale, et une vie dans les forêts, de plus en plus souterraine, fraîche et avec de l'eau limpide. C'est des images d'Épinal totalement folles. Mais je vois pas comment on peut échapper à cette différence radicale, et que forcément vont s'affronter ceux qui vivent dans les villes, qui auront besoin de ceux qui vivent dans les forêts pour les aider, les alimenter, mais il y aura bagarre. Alors, le genre d'ouvrage qui convoque ce futur, j'en vois pas directement. Je repense à quelque chose plus du passé, qui est La montagne magique de Thomas Mann, que je convoque quasiment dans toutes les situations, parce que c'est un moment de survie, parce que des gens viennent de plein de pays différents, ils parlent pas la même langue, ils sont obligés de se comprendre les uns les autres sans passer vraiment par le langage, ils sont malades et ils ont tous la tuberculose, donc ils sont en sursis. Ils sont quasiment mourants, et en même temps, ils sont sur un balcon au-dessus de la montagne en attendant que la vie se prolonge pour chacun d'entre eux. Votre question est intéressante parce que la première phrase de mon premier roman, publié il y a une vingtaine d'années, c'est une phrase au futur qui s'appelle « Je reviendrai ». Donc c'est totalement fou en fait, je savais déjà qu'on ferait cet entretien il y a 20 ans. C'est un roman qui s'appelle « La chambre des parents ». Et qui parlait d'un homme qui était enfermé en prison parce qu'il avait tué son père et qui essayait d'imaginer le retour possible ou non. Et la question du retour est quelque chose qui hante pas mal de mes livres. Et le précédent livre sur la guerre d'Algérie qui s'appelle Un loup pour l'homme, c'est aussi un livre qui pose la question du retour possible, donc de la survie possible. Est-ce qu'il y a une vie après la vie? En fait, en vous répondant, je me rends compte que tous mes livres parlent en fait uniquement de ça. Est-ce qu'il y a une vie possible après la catastrophe? Mais ça peut être une catastrophe intime. En général, c'est un deuil, c'est un passage en prison, c'est une vie qui s'est écroulée. Et si on ne s'était pas parlé aujourd'hui, je ne me serais pas rendu compte que tous les livres ne parlent que de ça. Bah, je pourrais envisager d'écrire après la grande catastrophe, mais la grande catastrophe, elle est d'abord intime, en fait. C'est d'abord l'effondrement de soi parmi l'effondrement des autres. Si on s'effondre tous ensemble, évidemment, ça paraît compliqué, parce que ça va être probablement différent et à des stades différents les uns des autres. Donc il y aura toujours certains témoins qui vont pouvoir écrire. Et il se trouve que j'ai un livre qui va être un livre au long cours, dont l'écriture va me prendre plusieurs années. Qui pose ces questions-là d'une façon un peu particulière, mais qui pose en tout cas cette question-là, tout simplement de la survie. C'est presque le seul thème de l'écrivain.
C'est plutôt comment quelque chose d'assez personnel, mais qui
rencontre la grande angoisse de chacun, c'est-à-dire la disparition. Là aussi, c'est un thème littéraire absolument qui détermine... Le geste d'écrire, à mon avis, pour chacun d'entre nous, c'est le rapport à la disparition, à l'absence, au plus jamais, au manque. Donc c'est ce travail qui est à l'œuvre. Et je pense que cette disparition au plan intime, c'est la même que la disparition des espèces, la disparition des glaciers, la disparition de la pluie ou des saisons. Si je devais choisir un morceau de musique qui parle de ce futur proche, c'est assez étrange, mais ce qui me vient tout de suite, c'est peut-être une chanson des Clash. London Calling, cette espèce d'urgence... cette force de violence, de destruction, mais d'énergie dingue qui fait que la destruction, malgré tout, se transforme en énergie vitale. Et je pense à une autre chanson qui n'a rien à voir, mais qui est Forest de The Cure, Lost in the Forest. Parce que quelqu'un est perdu dans la forêt, on appelle son nom, il est seul, comme s'il était seul sur Terre et que tous les autres avaient disparu, et l'idée de se perdre... Ça me fait penser à ça, cette chanson est très belle. Sur l'album 17 Seconds. Et en fait, 17 Seconds, on peut imaginer que c'est les 17 secondes avant le compte à rebours.
Thank you.
Forest, tout fut bosquet, New Wave, signé The Cure en 1980. Ça tombe bien, car il va être de nouveau question d'une forêt dans les visions du futur de ma dernière invitée d'aujourd'hui, croisée, comme ses trois prédécesseurs, aux correspondances de Manosque en Provence. Publié aux éditions Grasset, On ne peut pas tenir la mer entre ses mains est le beau titre du 11e roman de l'autrice et éditrice Laure Limongi, qui enseigne aussi la littérature au Havre. Née comme son héroïne en Corse en 1976, la même année, tiens, que la naissance du FLNC, Front de Libération Nationale Corse, Laure prend pour double Uma Benedetti, à l'heure où cette fille de militant indépendantiste revient sur l'île de beauté après des années pour plonger à pieds joints dans les remous de son histoire familiale. Mais quand Laure Limongi réfléchit au futur, changement de température, direction la taïga et les terres irradiées de l'ex-URSS.
Quand je pense à ce qu'il nous reste à vivre du 21e siècle, je ne vois pas forcément des choses très, très joyeuses et lumineuses. Enfin, je ne pense pas être une exception. J'ai l'impression que l'inquiétude va crescendo, ce qui est quand même paradoxalement une bonne nouvelle, parce que ça voudrait dire qu'on s'occupe un peu des choses et que peut-être, voyant le mur dans lequel on est en train de foncer à 3000 km/h, on peut peut-être trouver des solutions de s'arrêter. Voilà, mais c'est vrai que je suis obligée d'être un petit peu dans la mouvance générale, qui est que c'est plutôt très très inquiétant, en particulier en raison des problématiques environnementales. Bon, après, je suis quand même une éternelle optimiste, donc j'ai tendance à penser qu'il est encore temps de changer les choses et de ne pas être dans une période d'extinction totale, de masse, enfin, quoique ça serait peut-être une bonne nouvelle pour les autres espèces en même temps. Pour essayer de penser, d'entrevoir ce futur, évidemment, il y a les livres, il y a la littérature. Alors, il y en a deux, pour moi, qui ont créé une sorte de déclic particulier. Il y a Terminus radieux, d'Antoine Volodine, qui date de 2014. C'était un livre éminemment volodinien pour les amateurs d'Antoine Volodine, c'est-à-dire que pour résumer ça à très gros traits, et j'espère que les auteurs post-exotiques voudront bien m'excuser de ces résumés un petit peu hâtifs, dans les livres d'Antoine Volodine, en fait, tous les héros, nous-mêmes, tout le monde, c'est une horde de morts-vivants. On ne sait jamais trop dans quel espace se situent vraiment les héros qui nous représentent. D'ailleurs, le « nous » est très souvent utilisé. Et l'univers décrit est vraiment un univers post-apocalyptique qu'on a du mal à situer dans le temps, mais qui, effectivement, semble se dérouler après une catastrophe, en pleine catastrophe, et pas vraiment vers des horizons teintés de rose et de bleu, pour plutôt citer Baudelaire, qui n'a pas grand-chose à voir, certes, avec Antoine Volodine. On est toujours dans une sorte de bardo qui dure, qui est pénible, qui est en même temps évidemment plein d'humour, hein, et plein de... Il y a de la vie justement dans cet espace de mort. Mais c'est toujours un univers post-apocalyptique, et c'est un univers qui nous aide, à mon sens, à penser ce qu'on est en train de vivre, de monde d'après et de monde où il va falloir reconstruire des choses. Dans Terminus radieux d'Antoine Volodine, il y a un personnage, c'est un petit peu la première qui me vient à l'esprit, mais c'est la mémé Oudgoul. Celle qui est devant la pile nucléaire. Donc dans ce livre, il y a une espèce de pile nucléaire qui est une sorte de gigantesque poubelle. En fait, on la nourrit avec des vieux frigos, des machins, des pneus, enfin voilà. Et il y a une vieille communiste, la même Oudgoul, qui est au-dessus de cette pile et qui semble non seulement ne pas mourir, alors que ça fait longtemps qu'elle est irradiée, mais en plus se nourrir des irradiations. Et en plus, pour moi, ça symbolise vraiment le comique qui reste quand même très présent dans l'écriture d'Antoine Volodine, bon, qui est certes la politesse du désespoir, hein, mais qui est très présente et qui est, moi, que j'aime particulièrement. La taïga, ça peut pas être un refuge, une alternative à la mort ou au camp. C'est des immensités où l'humain a rien à faire. Il y a que l'ombre et de mauvaises rencontres. À moins d'être une bête, on ne peut pas vivre là-dedans. Il mit plusieurs secondes avant de pouvoir quitter l'image. Puis il revint à la steppe qui ondulait de nouveau sous un coup de vent. Il retrouvait le train arrêté, au-dessus du monde, le ciel nuageux et infini. Le moteur du diesel ne grognait plus. Il plissa les paupières. À nouveau, la mourante gémit. Il s'est assis sur ses talons afin de rester hors d'atteinte des regards. Les graminées lui arrivent aux épaules, mais comme il se baisse, elles se referment au-dessus de sa tête. Il a passé son enfance dans des orphelinats en zone urbaine, loin des prairies. et logiquement, il devrait être incapable de nommer les plantes qui à présent l'entourent. Or, une femme lui a transmis des notions de botanique. Une femme experte en nomenclature végétale. Et par nostalgie pour cette amante défunte, il jette sur les herbes de la steppe un regard curieux, s'intéressant à déterminer si elle possède des épis, des feuilles ovales, des feuilles lyrées, si elle pousse en bulbe, en rhizome. Après examen, il les étiquette. Sous le vent, près de lui, murmurent des grandes ogrontes, des touffes de gvoina, des sabaculianes, des serpentrines, des jeunes des communistes, des renardes bréhaignes et des aldous. Moi, ce qui m'a beaucoup touchée quand j'ai lu ce passage la première fois, c'est la création des noms des plantes. Et c'est ça qui m'a plu, c'est que on est, voilà, ils sont perdus en pleine taïga, on se doute bien que le seul horizon, c'est la mort. La mourante dont on parle, elle perd des poignées de cheveux, voilà, vraisemblablement, elle est totalement irradiée. Et quand même, il est dans les graminées et trouve le moyen de non seulement se souvenir du nom de plante, mais sans doute en réinventer. Et ce sont des plantes qui sont en mutation sans cesse, donc qui se réinventent. Donc voilà, la vie, elle est là malgré tout. Et dans ce livre-là, on est toujours dans ce battement entre des passages. Voilà, on se doute bien que l'horizon des personnages n'est pas le plus lumineux possible. Et en même temps, il y a toujours cette force de vie qui consiste à nommer, à renommer les choses et donc à les faire exister. Et le deuxième livre, c'est « La fin de l'homme rouge ». De Svetlana Alexievitch. Alors, j'ai pensé après coup que c'était quand même deux mondes assez liés, puisque liés au monde russe, au monde soviétique. Et bon, là aussi, je pense que pour la plupart des gens qui l'ont lu, ça a été une claque assez monumentale. Ce livre, qui est un récit de vie, donc de gens qui ont connu la fin du communisme, la chute du communisme, donc qui raconte les camps, qui raconte l'après, qui raconte. C'est vraiment plein d'histoires terriblement émouvantes, touchantes, et puis. C'est extrêmement beau aussi en même temps. Voilà, donc on est totalement emporté dans cet univers. D'ailleurs, en ce moment, il y a une adaptation théâtrale qui vient de passer à Paris, qui va être en tournée par Emmanuel Mérieux. Donc si, voilà, on peut lire et entendre en même temps. Et voilà, ces deux livres, pour moi, sont deux jalons qui permettent peut-être de penser ce monde. Où il est question de la beauté des dictatures et du mystère des papillons pris dans le ciment. Où il est question des frères et des sœurs, des bourreaux et des victimes, et de l'électorat. Où il est question de murmures et de cris et de l'enthousiasme. Où il est question d'un maréchal rouge solitaire et de trois journées d'une révolution oubliée. Où il est question de l'aumône des souvenirs et du désir éperdu de trouver un sens. Où il est question d'une autre Bible et d'autres croyants. Où il est question de la cruauté des flammes et du salut qu'on trouve dans les nuages. Où il est question des délices de la souffrance et du tour de force mentale dont les Russes sont capables. Où il est question d'un temps où tous ceux qui tuent croient servir Dieu. Où il est question d'un fanion rouge et d'une hache qui attend son heure. Quand je lis ce genre de livre, pour moi, ce n'est pas du tout du désespoir. Enfin, ça peut-être paraître un petit peu mystique ce que je dis, mais dans l'image la plus sombre, pour moi, il y a forcément, par définition, de l'espoir. Puisque c'est une question dialectique, hein. C'est le noir, le blanc, le bien, le mal, etc. Donc qui dit mort dit vie après, dit décomposition, dit petite moisissure, dit petite radicelle, dit petite feuille, petits insectes. Voilà, donc ça peut pas être négatif. En tout cas, c'est la manière dont je vois les choses. Quand je pense aux 100 prochaines années et aux livres que j'ai cités, si je devais citer une bande-son, alors je vais encore... je pense à Olivier Mélano. Et là, je pense notamment à ce qu'il fait en ce moment avec les deux albums de Melanoï Escape. Et je pensais aussi à un autre groupe, qui est un groupe américain qui s'appelle Oxbow, qui a un univers rock assez sombre, assez à la fois très subtil dans la composition musicale et avec des images assez sombres. Je pense notamment à l'album The Narcotic Story. Voilà, qui me semblerait pas mal à écouter jusqu'à ce qu'on atteigne ce fameux mur à 3000 km/h.
Oh, Jesus. Yeah,
Down a Stair Backward, une chanson des rockeurs californiens d'Oxbow en 2007 pour refermer dans un claquement de cymbales cette émission. En attendant la suite de ces scénarios pour le 21e siècle récoltés par votre serviteur lors de la 21e édition des Correspondances de Manosque, dimanche prochain, de 12h à 13h, vous entendrez sur le même sujet les hypothèses de quatre autres écrivains, Charlie Delvart, Hélène Gaudy, Olivia Rosenthal et Sylvain Prudhoff. Cette émission a été réalisée par Mathieu Boudon, à qui je vais demander tout de suite de venir nous expliquer quelle est sa vision du futur. S'il vous plaît, ne soyez pas timide, quittez votre console, venez nous rejoindre. Les Français ont besoin de vous entendre. Êtes-vous inquiet, Mathieu Boudon? Est-ce qu'au contraire, vous imaginez, vous, des lendemains qui chantent?
Des lendemains qui chantent après un hier qui gronde.
Et c'est sur ce haïku improvisé par notre réalisateur que je vous souhaite un bon après-midi, un bon dimanche et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures littéraires. Comme dit Jodorowsky, d'une peau de tigre accrochée au mur, nous ferons des tigres.
Nova Book Box, une jukebox littéraire de Radio Nova.